monde il est beau, tout le monde il est gentil.
Nous sommes Jean-Luc et Fabio, au siège de la section suisse d'Amnesty International à Berne, en compagnie de Daniel Gostelia-Hauser. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Titulaire d'un master en sciences sociales et politiques et d'une formation en coopération au développement, vous travaillez depuis plus de 25 ans à la section suisse d'Amnesty. Vous avez été pendant plusieurs années responsable des campagnes et actions du mouvement et dès 1996 au développement du travail, économie et droits humains au sein de l'organisation. Probablement une des organisations non gouvernementales les plus connues par le public, Amnesty International est un organisme qui promeut la défense des droits humains et le respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle milite contre la torture, pour l'abolition de la peine de mort, la libération des prisonniers d'opinion et la liberté d'expression. C'était donc tout naturel, Daniel, que Amnesty Suisse rejoigne la vaste coalition des 114 organisations et ONG qui portent et soutiennent l'initiative pour des multinationales responsables.
Oui, absolument, c'est vrai. Puisqu'Amnesty s'engage pour dénoncer les abus aussi bien commis par les gouvernements, on le connaît justement par rapport à ces nombreux rapports qui dénoncent les abus commis par des gouvernements sur leur population, mais également sur le secteur privé. En fait, c'est un domaine qu'on a abordé en 1996, on pourra y revenir un peu plus tard, et c'est effectivement important. Alors, par rapport à cette initiative, peut-être pour un petit rappel, ce qu'on demande qu'en Suisse, nos multinationales respectent les droits humains quand elles font des affaires dans des pays en développement, dans des pays tiers. Et pourquoi est-ce qu'on demande en fait qu'elles soient obligées par la loi de le faire? C'est parce qu'on constate encore toujours, malheureusement, aujourd'hui, que les entreprises sont impliquées dans des violations des droits humains et qu'elles ont tendance encore à maximiser les profits et à les mettre en fait en avant par rapport au respect des droits humains et de l'environnement. Et on estime que c'est important, donc toute cette coalition estime que c'est extrêmement important si on veut vraiment pouvoir stopper ces abus, les évictions forcées quand il y a une grosse société qui veut s'implanter, quand il y a une pollution de l'eau, de fleuves, de rivières qui ont des impacts directs sur la jouissance des droits humains, le droit à la vie, le droit à l'eau, le droit à un environnement sain, c'est extrêmement important de pouvoir mettre un frein à de tels abus et nous estimons dans le cadre de cette coalition, bien sûr aussi pour Amnesty, qu'il n'y a qu'un moyen de le faire qui est vraiment valable et nécessaire, c'est de passer par des bases légales.
Faisons un peu d'histoire avec vous, Daniel, pour découvrir le travail qui a déjà été réalisé à l'adresse des entreprises transnationales pour qu'elles ne violent pas ou plus les droits humains dans les pays où elles sont implantées. Vous avez été vous-même mandaté par Amnesty en 1996, déjà vous l'avez dit, pour développer un réseau international sur entreprises et droits humains. Ceci à une époque où cette thématique était largement ignorée par les gouvernements et les entreprises. En quoi cela consistait-il?
L'idée d'Amnesty de travailler sur le secteur privé plutôt que de continuer à avoir pour objectif les gouvernements est née d'une analyse qu'on a faite du contexte politico-économique mondial à l'époque, dans la fin des années 90. Et au niveau international, en fait, c'est un ancien haut manager de Shell en Grande-Bretagne, qui s'appelait Sir Geoffrey Chandler, qui a en fait poussé Amnesty à se questionner sur l'impact qu'on avait dans nos campagnes. Et il nous a dit, mais regardez, le monde a changé, le monde se globalise, il y a des sociétés qui ont fusionné, qui sont devenues des puissantes sociétés transnationales, qui ont le pouvoir de faire le bien ou le mal si on ne leur met pas un cadre de conduite.
Il parlait aussi de sa société.
Bien évidemment, il avait de l'expérience par rapport à sa propre société. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a mise à sa retraite à disposition d'Amnesty. Donc il nous a aussi ouvert des portes par rapport à des sociétés qu'on a approchées. Donc sur cette base-là, on était un petit groupe de section au départ d'Amnesty et on a décidé de créer ce réseau international, d'approcher les entreprises pour les convaincre que les droits humains devaient faire partie de leur business.
Cela s'adressait à quel type d'entreprise ?
Ça s'adressait avant tout à des grandes sociétés multinationales, puisque c'était là où il y avait le pouvoir qu'on voulait essayer d'influencer en fait ces sociétés. Et un des facteurs déclenchants, un des événements malheureux déclenchants aussi de ce travail d'Amnesty, ça a été l'exécution en 1995 de Ken Saro-Wiwa, un militant ogoni qui s'est opposé à l'industrie, la pollution de l'industrie pétrolière dans le delta du Niger, au Nigeria. Il s'est opposé et avec 8 autres ogoni, il a été condamné à mort par le régime Abacha à l'époque, après un procès complètement factice. Et à l'époque, bien sûr, nous, en tant qu'Amnesty, on a approché le gouvernement Abacha pour lui dire « Écoutez, c'est un procès inique. Ces gens ne méritent pas la peine de mort. » Et on a approché Shell en disant « Mais écoutez, vous avez le pouvoir, puisque vous êtes le gros investisseur au Nigeria, faire annuler cette sentence. » Et la réponse de Shell, à l'époque, c'était de nous dire « Ah, mais les droits humains, ce sont des considérations politiques qui relèvent de la responsabilité des gouvernements, parce que c'est eux qui sont signataires des traités et des conventions internationales. » Nous, en tant qu'entreprise, nous sommes du secteur privé. Donc ce ne sont pas nos affaires.
Bien botté en touche.
Voilà, exactement. Et tellement bien botté en touche qu'effectivement, Ken Saro-Wiwa et 8 autres ogoni ont été condamnés à mort et pendus à la suite de ce procès inique. Comme on avait aussi Sir Geoffrey Chandler qui était comme membre bénévole d'Amnesty, ça l'a aussi énormément touché. Il a dit « Mais c'est quelque chose qu'on peut pas maintenir comme ça ». Ça a créé un gros scandale aussi au niveau international. Ken Saro-Wiwa était un écrivain qui était connu au niveau international. Donc ça a créé aussi des appels au boycott de la part de gens. Je me souviens, il y avait des gens en Allemagne surtout qui boycottaient les stations Shell, les stations d'essence. Et finalement, Shell, face à cette pression, a été la première société multinationale qui s'est assise avec Amnesty et Pax Christi aux Pays-Bas, là où ils avaient aussi leur siège, ils avaient Pays-Bas et Grande-Bretagne, pour créer le premier code de conduite d'une société multinationale qui tienne compte des éléments droits humains dans leur business. Alors ça, c'était les premiers pas, en fait, d'une société dans ce domaine. Il y a eu un autre scandale qui a été celui de BP en Colombie, parce qu'ils avaient construit dans les années... Ça, c'était un petit peu plus tard, dans les années 2000, un pipeline en Colombie. Et finalement, c'est eux-mêmes qui ont découvert que la société de sécurité privée qu'ils avaient engagée pour surveiller et vérifier que tout se passe bien au niveau de ce pipeline, livrait aux paramilitaires en Colombie des listes noires de gens, de militants, de droits humains, qui s'étaient peut-être exprimés contre ce pipeline, etc. Et ça a créé un gros scandale en Colombie. Donc là aussi, là des fois on a des entreprises qui nous ont approchés parce qu'elles se sont retrouvées prises entre deux feux en disant mais on doit se justifier, qu'est-ce qu'on fait en fait, parce qu'on n'avait rien. Au niveau des ONG, nous on commençait à mettre ça en place, mais on passait pour des martiens. On écrivait des lettres à des entreprises qui investissaient dans des pays où le bilan en matière de droits humains était désastreux et on nous répondait oui mais il n'y a rien à faire. Alors, on a dû développer des instruments, une documentation, une cartographie des risques qu'on a montré par rapport à des secteurs d'activité pour montrer sur une carte aux entreprises. Mais regardez, si vous investissez dans tel pays et que vous êtes dans le pharma, que vous êtes une entreprise extractive, vous serez confronté à différents types de violations de droits humains qui ne sont pas les mêmes en fonction de votre secteur d'activité ou des violations qui subsistent dans le pays.
Donc vous avez dénoncé des activités extrêmement concrètes.
Oui, absolument. Alors, on a essayé de faire ce qu'on appelle le travail de plaidoirie, de advocacy. Je prenais mon téléphone et j'essayais d'aborder les entreprises en leur disant, écoutez, voilà, vous allez dans tel pays. Si on avait de la chance, on nous répondait. Et souvent, on n'avait pas de chance et on nous renvoyait gentiment à nos copies en nous disant ben, on en rediscutera quand on aura d'autres sujets.
Donc, vous faisiez en même temps un travail d'information, de lobbying, mais en même temps, ça vous donnait quand même quelques informations pour dénoncer.
Oui, alors pour dénoncer, on a dû adapter la stratégie. Quand on a vu que le travail de plaidoirie ne suffisait pas, on s'est dit on doit documenter en fait ce qu'on dit. Et on a commencé à faire de la recherche. Alors, comme on a fait la recherche sur les pays, sur les violations dans les pays, vous avez les rapports annuels d'Amnesty International qui listent à peu près tous les pays qu'on a couverts sur une année. Et là, on a décidé de développer la recherche sur le secteur privé et de voir quels abus. Alors, par exemple, il y a eu les questions de Shell. Shell, on a analysé après, dans les années qui ont suivi, quelles étaient exactement les performances de Shell suite à l'exécution de Ken Saro-Wiwa. Et on s'est rendu compte, en sortant un rapport en 2009, que malgré les belles promesses de Shell, la situation sur le terrain était encore catastrophique. Des pipelines qui n'ont pas été, dont la maintenance était déficiente. Il y a eu des fuites de pétrole catastrophiques. La subsistance des populations locales dans le delta du Niger qui était même plus garantie. Et nous avions invité un militant ogoni qui est venu ici en Suisse. La première chose qu'il m'a dit quand il est arrivé ici, il m'a dit « Je respire ». L'air est tellement vicié, il y a une technique de brûlage en fait du pétrole qui s'appelle le torchage, qui pollue l'environnement et qui crée beaucoup de problèmes pulmonaires aux populations locales. Il y a une loi qui interdit officiellement cette technique du torchage, mais les multinationales peuvent s'acheter des dérogations.
Ce qu'elles ont fait au Nigeria.
Voilà, absolument.
Amnesty, ce sont vos mots d'ailleurs, a forcé les portes du WEF, le World Economic Forum, en 1998 pour présenter des, j'ouvre les guillemets, principes relatifs aux droits humains à l'intention des entreprises. D'ailleurs, ces principes sont la résultance du travail que vous venez de nous expliquer maintenant.
Absolument. À la suite de ces négociations qu'on avait eues avec les entreprises, on s'est rendu compte que la responsabilité des entreprises, puisqu'ils nous avaient dit « nous, on n'est pas tenus par les traités internationaux », nous, on s'est basé sur le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit clairement qu'il y a une responsabilité des acteurs privés aussi dans le respect des droits humains. Donc on a utilisé cet élément du préambule et après on a d'abord construit ces principes par rapport à des droits qui les concernaient directement, notamment les droits du travail. Il y avait eu le scandale de Nike à la fin des années 90 sur le problème des conditions de travail dans l'industrie textile en Asie. Et des gens qui avaient boycotté en fait les produits Nike. C'est ça qui avait fait bouger Nike aussi pour développer aussi une stratégie plus adaptée. Donc on s'est dit, on a ces principes, le téléphone ne marche pas trop, envoyer des lettres pour les faire circuler, ça ne marchait pas trop. Puis on s'est dit, tiens, 1998, 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, où sont tous ces entrepreneurs? Ils viennent toujours au WEF, au World Economic Forum à Davos. Alors on essaye d'obtenir notre ticket d'entrée. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tellement d'ONG, il y en avait peut-être deux ou trois, c'était vraiment le cercle fermé. Alors on a vraiment dû faire un peu du forcing, parce que la première réponse nous avait été « on vous invitera quand le thème sera les ONG ». Ben non, nous on veut parler maintenant de ce thème, et on a obtenu un ticket pour notre secrétaire général d'Amnesty International de l'époque.
Amnesty a participé aussi au développement des principes volontaires sur la sécurité et les droits de l'homme qui s'adressent ceux-ci aux entreprises du secteur de l'industrie des matières premières et de l'énergie pour, j'ouvre les guillemets, leur donner des instructions concrètes sur la façon d'évaluer les risques liés à leurs activités ainsi que de mettre en place des systèmes permettant de signaler et d'enquêter sur toute violation relative aux droits humains. Est-ce que ces chartes, Daniel, avaient un but dénonciateur ou le but était plutôt de les faire signer par des entreprises?
Alors, cette initiative des principes volontaires sur la sécurité et les droits de l'homme qui a été lancée autour des années 2000, à laquelle Amnesty a participé au débat, au départ, était aussi liée à cette volonté de montrer l'importance en fait, d'inclure les droits humains dans un secteur d'activité particulier qui était celui des matières premières et de l'énergie. Et c'était une initiative qu'on appelle l'initiative multipartite. Mais ça restait des normes qui ne sont absolument pas contraignantes. Donc elles n'obligent pas les entreprises qui sont membres à faire leurs affaires de façon plus éthique, plus respectueuse des droits humains et de l'environnement. Notre constat par rapport à ça, c'est que dans ces initiatives multipartites, on a bien une présence de représentants à la fois de gouvernement, d'entreprises et d'ONG, voire des spécialistes des milieux académiques qui sont là pour développer ces chartes communes, en fait, ce code de conduite commun. Alors, c'est à l'avantage qu'on a tous les acteurs à la même table. Le gros inconvénient, c'est que le résultat, vous arrivez à un résultat de compromis, parce qu'on a des intérêts complètement divergents, des fois complètement opposés, et vous arrivez à un résultat de compromis qui est des fois tellement grand et tellement large. On a une situation avec Amnesty, pas sur ce cas-là, mais sur une autre initiative qui s'appelait Global Network Initiative pour le secteur de technologie de l'information, Google, Yahoo, etc., où finalement on exigeait, parce qu'on s'est rendu compte que ces sociétés, grâce à leur programme, permettaient à des pays comme la Chine ou d'autres pays d'Asie de contrôler les militants des droits de l'homme et de les emprisonner sous prétexte qu'ils avaient juste parlé de démocratie et de droits humains. Et là, vous négociez dans le cadre de ces discussions multipartites et le résultat est un document avec de telles concessions qu'à la fin, Amnesty a dit « nous, on ne peut pas le co-signer, en fait ». Donc, vous passez énormément de temps à négocier un texte qu'à la fin, vous ne pouvez pas co-signer parce qu'il y a un tas d'éléments qui ont été enlevés. Et je peux vous raconter une autre anecdote. Moi, j'ai participé moi-même à une autre initiative qui s'appelait le Global Reporting Initiative, qui permet encore aux entreprises de mesurer, d'avoir des critères pour mesurer leur impact en matière de droits humains et d'environnement. Et j'étais mandatée pour négocier avec le secteur des télécoms un document de supplément, en fait, où on développait un certain nombre de critères. Et il y en avait une trentaine. Sur ces 30 critères, il y en avait certainement 26 ou 27 qui concernaient l'environnement et les 3 ou 4 derniers qui concernaient vraiment les droits humains. Déjà là, il y avait une disproportion. Et il y en avait un particulièrement sur l'exploitation du coltan en République démocratique du Congo. Maintenant, on parle plutôt du cobalt, mais le coltan est aussi important. Hein, on l'utilise beaucoup dans la téléphonie, donc c'est pour ça que Vodafone et toutes ces industries télécom étaient de la partie. Et j'étais seule représentante des droits humains. Ça aussi, il y avait une disproportion de représentativité. Vous avez en général beaucoup de gouvernements, beaucoup d'entreprises et une à deux organisations. Et vous devez défendre votre point de vue. Et c'était une bataille presque d'une journée pour maintenir un critère d'évaluation qui était sur le coltan parce que c'était déjà estimé trop politique. Alors, c'est juste pour vous donner un peu le cadre, pour vous montrer à quel point c'est aussi fastidieux, c'est long et des fois pour des résultats où on n'est pas toujours très sûr de savoir est-ce que ça a marché ou pas.
Parce que c'est souvent sur une base volontaire. Donc quand il y a une base volontaire, c'est comme des labels où il y a quand même pas encore un tribunal d'arbitrage, ça n'existe pas pour l'instant. Mais tant qu'il n'y a pas de ce type d'institutions qui sont mises en place, c'est au bon vouloir directement des personnes, enfin des transnationales, qui font elles-mêmes leurs analyses, alors, si j'ai bien compris.
Alors, effectivement, donc le problème avec ces mesures, en fait, ces initiatives, qu'elles soient multipartites, elles peuvent être aussi à l'échelle d'une entreprise, elles peuvent être développer son propre code de conduite. Mais dans les initiatives multipartites, le gros problème qu'on a constaté, que j'ai personnellement constaté, c'est que c'est leur caractère non contraignant. L'autre gros problème, c'est la dépendance des États hôtes. Dans le sens où si vous avez un État qui est à faible gouvernance, qui est dépendant des investissements externes, il ne va pas mettre en place les législations adéquates ou poursuivre. Je vous parlais du torchage, la technique de torchage avec Shell et les compagnies pétrolières au Nigeria. le gouvernement local ne va pas poursuivre les entreprises, il a trop peur de perdre ses investissements. Sûr. L'autre problème, c'est la surveillance aussi indépendante. Quelle surveillance on a quand on a un code de conduite qui est volontaire? Quelle surveillance on a de ce code de conduite? Les sanctions, elles sont souvent assez faibles. Dans le pacte mondial, il y a des procédures d'exclusion maintenant, mais c'est surtout si les entreprises ne répondent pas à un certain nombre de critères. Un gros problème, et qui là, avec l'initiative pour les multinationales responsables, nous permettrait d'y répondre, c'est ce problème d'accès à la justice aussi quand il y a des dommages qui sont subis, en fait. Qu'est-ce qui se passe? La justice locale, bien sûr, d'accord, Shell au Nigeria, il y a eu un tas de plaintes au Nigeria avec Shell. Si on a d'autres grosses sociétés suisses, on a des grosses sociétés comme Glencore Xstrata qui investissent aussi dans des pays comme le Congo, en Zambie. Alors, les gens essayeront bien sûr dans leur propre pays d'abord, c'est plus facile. Mais s'ils n'obtiennent pas de gain de cause, qui leur donne justice en fait à ces gens? Donc il y a une responsabilité des sociétés multinationales parce qu'elles ne peuvent pas tirer profit d'une exploitation minière aux Philippines, en Amérique latine, mais se dédouaner de leurs responsabilités par rapport à leur chaîne d'approvisionnement, par rapport à leurs filiales. Elles ont un devoir de veiller à ce que, le long de cette chaîne d'approvisionnement, les droits humains et l'environnement soient respectés. Pour ça, on a un grand avantage à l'heure actuelle. On a ces fameux principes directeurs de l'ONU pour les entreprises, sur les entreprises et les droits de l'homme, qui sont maintenant le cadre international qui a été accepté en 2011 à l'unanimité par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU et qui reste le cadre aussi de référence pour la Suisse et pour d'autres pays.
Je me fais un peu l'avocat du diable ou le provocateur, mais ça reste des principes. Et on sait bien que, même si on comprend l'engagement que vous avez eu, Amnesty a dans le domaine des violations des droits humains, qu'est-ce qu'il faut dire de ces mêmes entreprises, de leur comportement au fil de toutes ces années? Qu'en est-il des codes de conduite dont vous parliez aussi, qu'elles disent avoir assumé? Quelle est votre analyse?
Alors par rapport aux codes de conduite, c'est vrai, nous avons du côté d'Amnesty un sentiment mitigé, dans le sens où il y a des choses qui ont été réalisées au niveau de la sensibilisation du personnel au sein des entreprises. Shell avait même développé des programmes de formation, d'autres entreprises l'ont fait aussi. De mon côté, je me souviens avoir conseillé des entreprises sur l'élaboration de leur code de conduite. Quand ils ont signé le pacte mondial, il y avait ABB, il y avait Novartis. J'ai eu des discussions avec les banques, j'étais d'ailleurs pas la seule, une collègue de Public Eye a aussi beaucoup travaillé avec les banques suisses, ils travaillent encore. Mais c'est vrai que quand on est face à des codes de conduite volontaires, le constat que j'ai fait, c'est de dire qu'on arrive à un point où on ne progresse plus vraiment en fait, avec le volontaire, parce qu'on n'a pas une ligne commune qui est valable pour toutes les entreprises. Ce qu'il faut, en anglais, ils ont une bonne expression que je trouve qu'on n'arrive jamais bien à traduire en français, le fameux « level playing field ». Vraiment, un point commun qui est valable pour toutes les entreprises. Et de nouveau, nous estimons qu'avec cette initiative pour les multinationales responsables, quand on a des bases légales qui sont exigées, elles sont valables aussi pour tout le monde, pour toutes les grandes sociétés. Elle s'appelle multinationale responsable parce qu'on veut vraiment mettre l'accent sur les multinationales suisses qui font leur business à l'étranger. Et grâce à ça, nous pensons, et je me souviens avoir eu un entretien avec un entrepreneur, puisque j'étais souvent en négociation avec eux, qui m'avait dit deux choses. Amnesty, vous pouvez faire des campagnes, les autres ONG peuvent faire des campagnes, c'est jamais très agréable pour nous, ça égratigne notre image de marque, mais on compte sur le fait qu'avec le temps, aussi bien vous que les médias vont se désintéresser. Donc, le soufflet va retomber. Ce sera embêtant sur le moment, mais on peut gérer. Par contre, si vous voulez vraiment que ça nous touche, il y a deux choses. Soit vous nous obligez légalement à le faire, et là, on est obligé de le faire. Ce ne sera pas seulement les responsables de la RSE, de la responsabilité sociale de l'entreprise dans la société qui auront la tâche de vérifier que le business soit fait de façon éthique, mais ce sera les gens du compliance, du legal, donc les avocats de l'entreprise qui viendront aussi regarder, attention, est-ce qu'on fait ça dans les règles de l'art ou pas. Et là, l'autre chose qui nous fait peur, c'est les investisseurs. La déclaration de Larry Fink récemment, pour rappeler BlackRock quand même, investisseur privé qui a un porte-monnaie de 7 000 milliards de dollars, si je ne m'abuse, donc un gros investisseur, qui a indiqué récemment, si vous voulez que j'investisse dans votre entreprise, cessez de miser sur la maximisation du profit et dites-moi à quoi il sert. Ben, je vous dis que franchement, il y a 15 ans, je ne me serais pas trop attendue à avoir ce genre de déclaration. Alors, ça reste une déclaration, mais malgré tout, ça donne le ton. Et là, je pense qu'en combinant les bases légales avec les attentes des investisseurs, n'oublions pas qu'on a des caisses de pension, mes collègues d'Amnesty Norvège, je les envie toujours un peu quand même quand ils ont la possibilité de travailler avec leurs caisses de pension norvégiennes qui disent après « Ah, mais on va se retirer ». De cette entreprise parce qu'elle ne se conforme pas au respect des droits humains ou de l'environnement. Ils l'ont fait à plusieurs reprises.
Ce que certains sont en train de faire avec les banques ici en Suisse, entre autres. Voilà. Mais ce n'est pas un peu un enfumage?
Alors au niveau des paroles, des déclarations, oui, on peut dire que ça peut être de l'enfumage, mais en l'occurrence, je pense que quand on commence à avoir des déclarations de ce type d'investisseurs qui sont puissants...
On peut travailler là derrière.
On peut travailler là derrière.
C'est des leviers.
Mais je crois plus au fait qu'il faut avoir des initiatives qui tendent à obliger légalement les entreprises à faire leur business correctement. On nous reproche en Suisse le fait, avec cette initiative pour des multinationales responsables, d'être les seuls à faire ça. On menace la compétitivité de la place suisse par rapport à d'autres sociétés internationales, etc. Et en fait, quand on observe ce qui se passe, par exemple, ne serait-ce qu'à l'échelle de l'Union européenne, il y a tellement d'initiatives analogues qui se développent dans d'autres pays. Les Français ont déjà la loi de vigilance française qui va dans la même direction. On a l'Allemagne qui maintenant a dit clairement si on n'a pas 50% des entreprises qui développent vraiment une politique qu'ils appellent de diligence en matière de droits humains, on devra les obliger légalement. Il y a toute une dynamique qui se crée là autour qui est extrêmement intéressante parce qu'elle va aussi pousser l'Union européenne à harmoniser en fait tout ça au niveau de l'Union européenne. Et les Canadiens ont déjà la possibilité, il y a déjà eu des plaintes en fait qui ont été au Canada, donc on a d'autres pays qui bougent.
Vous venez de répondre un peu à ma question suivante, l'initiative pour les multinationales responsables, c'est le bon instrument pour changer les choses?
C'est le bon instrument parce qu'elle ne tombe pas de la lune en fait, cette initiative. Elle est construite sur le cadre international qui nous est donné, dont j'ai parlé tout à l'heure, ces fameux principes directeurs de l'ONU sur les entreprises et les droits de l'homme, qui ont été développés par le professeur John Ruggie. Il a quand même travaillé pendant 6 ans à l'élaboration de ce cadre. Et en fait, l'initiative pour les multinationales responsables ne demande rien d'autre qu'une mise en œuvre de ce cadre. Et là où on ne s'entend pas avec le Conseil fédéral à l'administration fédérale, c'est que le Conseil fédéral a développé un plan d'action national, c'est ce qui est attendu pour la mise en œuvre de ces principes directeurs, mais il mise surtout sur l'accompagnement, sur la formation, ce qui est très bien, on est d'accord, on va former les PME, il y a des brochures qui sont faites, je ne conteste pas du tout cet aspect-là, mais il est insuffisant. Et le professeur John Ruggie, il parlait en anglais d'un fameux smart mix, d'un mélange judicieux de mesures d'accompagnement volontaire combinées avec des bases légales. Et pour moi, c'est deux pièces de puzzle qui vont ensemble. On ne peut pas en avoir un d'un côté et puis se construire son puzzle sur du volontaire, c'est nettement insuffisant.
Mais à votre avis, Daniel, qui devrait s'occuper de ces mesures d'accompagnement? Est-ce qu'on le sait déjà? Elles viendraient des ONG, de l'administration fédérale ou...
Au niveau de l'accompagnement, alors dès le moment on admet qu'on a gagné la campagne en votation sur l'initiative pour des multinationales responsables. Alors là, on est encore au niveau du texte constitutionnel. Donc ce qu'il va falloir avoir, c'est la base légale. Il faut développer une législation. Ce qui faisait l'intérêt du contre-projet indirect qui a été élaboré par le Conseil national et qui a été quasi refusé par le Conseil des États puisqu'il y a opposé une solution alibi qui demande juste une solution
de
reporting, de rapport basé sur des directives et une réglementation de l'Union européenne qu'elle-même est en train de retravailler maintenant, voyant bien les limites. Et pour l'anecdote, j'ai discuté avec ma collègue d'Amnesty Danemark, parce que le Danemark dispose d'une telle réglementation déjà d'une bonne dizaine d'années. Et j'ai dit, quelles expériences vous avez fait? Elle rigole, elle dit, mais tu sais, quand tu as une législation qui oblige les entreprises à rapporter sur ce qu'elles font, mais qui a encore une clause qui indique « je peux rapporter que je ne fais rien », tu ne vas pas bien loin. Je vous rapporte, mais je ne fais rien. Alors, comment je peux mesurer ça? Alors, au niveau de l'initiative pour des multinationales responsables, dès le moment où vous êtes obligé de le faire, déjà, il y a tout cet aspect préventif, parce que je dois faire beaucoup plus attention quand je vais lancer un nouveau projet. Si vous avez une opposition locale, vous avez des gens qui vous bloquent le projet, vous ne pouvez pas avancer, mais c'est des millions par jour que vous perdez comme entreprise. Donc ça vaut la peine aussi de travailler en amont en disant, mais est-ce que je vais mettre ce projet en place? Comment seront affectées les populations locales? Est-ce qu'elles ont quelque chose à dire ou pas? Après, l'entreprise décide, ok, on mène le projet. Elle doit faire, on appelle ça un monitoring, c'est-à-dire surveiller pendant toutes les phases du projet. Est-ce que ça se développe de façon satisfaisante? Est-ce qu'il y a de nouveau des problèmes? Si oui, je dois y remédier le plus rapidement possible. Et le dernier élément, je dois rapporter. Je dois rapporter sur ce que je fais. Et ça, c'est ce que demandent aussi ces principes directeurs de l'ONU. Et avec l'initiative pour des multinationales, ce qu'on a encore comme élément, qui est l'élément un peu de contrôle, c'est comme on a prévu que les victimes, en cas d'abus, peuvent demander une compensation financière pour le dommage subi dans un rapport, surtout de société mère à filiale. Hein. Cet instrument-là de responsabilité civile, qui est d'ailleurs construit sur le code des obligations, l'article 55, on a la responsabilité de l'employeur. Donc là aussi, on n'a rien inventé. On a construit sur quelque chose d'existant. Et d'avoir ce mécanisme-là, ce sera un petit peu l'autorité de surveillance sur une entreprise se dirait, si je ne me comporte pas correctement, j'ai des risques que quelqu'un viendra se plaindre en Suisse. Ceci dit, il n'y a pas de plainte collective en Suisse, hein. Non, ça n'existe pas.
C'est quand même un peu le problème, c'est que les gens vont se dire toujours de manière individuelle. Quoi.
Voilà.
Et ça, c'est quand même un peu la limite aussi de tout ce mécanisme qui risque d'être, enfin, qui sera peut-être mis en place, on espère.
Alors absolument, je suis d'accord avec vous. À ce niveau-là, il y a des obstacles de procédure qui demeurent. Et c'est pour ça que je suis toujours extrêmement surprise d'entendre de la part de nos opposants des associations économiques de dire que nous serons, si l'initiative est acceptée, nous serons submergés de plaintes. Déjà, alors si on est submergé de plaintes, je me dis c'est qu'il y a vraiment un problème. Hein, de un. De deux, quand je considère les personnes auxquelles on a affaire, c'est des gens pauvres qui sont des fois illettrés, qui doivent avoir accès aux informations. C'est à eux de prouver qu'il y a eu un dommage et qu'il y a un rapport de contrôle de l'entreprise. Et il y a un tas d'éléments que les victimes doivent prouver en fait pour pouvoir obtenir gain de cause. Et en plus, même s'ils ont prouvé en fait qu'ils ont dû subir ce dommage, l'entreprise peut encore se dédouaner en disant, c'est la fameuse preuve libératoire, oui mais écoutez, moi j'ai instruit vraiment ma filiale pour qu'elle mette un filtre qui a pollué l'environnement et ce n'est pas de ma responsabilité. Donc c'est vrai que les obstacles de procédure restent pour les victimes, mais cette possibilité est au moins là. Ça donne un petit accès à la justice quand même pour les gens qui ont été lésés.
Vous ne pensez pas qu'on risque de rentrer aussi dans une phase de pollueur-payeur ? C'est-à-dire que je sais que je vais enfreindre la loi, mais je mets ça dans ma comptabilité, humaine et financière.
Dans la procédure pénale, vous avez une amende qui est donnée à l'entreprise, puis effectivement, elle paye son amende et puis voilà, elle peut le mettre dans sa comptabilité. En procédure civile, l'avantage, c'est que c'est vraiment la victime qui peut obtenir au moins un dédommagement. Mais c'est vrai que si on compare à d'autres cas internationaux, nous avons beaucoup travaillé justement sur le cas de Shell au Nigeria, et il y a eu d'abord le procès aux États-Unis pour les populations Ogoni, ils ont obtenu 13 millions de dédommagements. Mais attention, c'était d'ailleurs un arrangement à l'amiable, hein. Il n'y a pas eu le procès. En général, les entreprises s'arrangent avant, hein, avant le procès. Et maintenant, il y a aux Pays-Bas aussi d'autres veuves, des autres Ogoni, en fait, qui ont aussi déposé plainte auprès de Shell aux Pays-Bas. Et c'est le fameux, la fameuse plainte Kiobel. Là, Amnesty a dû fournir en fait des informations sur les malversations de l'entreprise. Et à ce niveau-là, ça, ce sera le challenge pour nous aussi au niveau des organisations, c'est de pouvoir aussi appuyer les gens dans leurs demandes. Ces gens doivent aussi trouver des avocats qui, probablement, au départ, devront faire ces procédures de façon pro bono. J'entends.
Donc, il y a quand même cette question qui reste, c'est que les multinationales vont toujours faire du profit, quelles que soient les choses qui sont mises en place, que ce soit les réglementations mises en place. Il faudra toujours maintenir un rapport de force.
Moi, j'estime qu'il y a une responsabilité de nos propres gouvernements où siègent ces multinationales, parce que là, finalement, le tribunal sera en Suisse pour juger est-ce que l'entreprise suisse a bien instruit ses filiales et les entreprises qu'elle contrôle sur le fait qu'elles doivent respecter les droits humains. Et c'est une responsabilité de la Suisse. La Suisse ne peut pas déléguer ça dans un monde globalisé où une société multinationale peut être établie de façon tentaculaire dans le monde entier. On ne peut pas déléguer cette responsabilité à des pays en développement qui souvent en plus souffrent d'une faible gouvernance. C'est juste pas tenable comme situation.
Alors, les règles contraignantes de respect des droits de l'homme et de l'environnement qui seraient appliquées aux entreprises suisses dans leur activité à l'étranger vous donneront de fait des outils supplémentaires dans vos interventions. Qu'est-ce qui pourrait changer pour Amnesty dans son mode opératoire ?
Dès le moment où on a ces règles qui sont contraignantes et qui sont inscrites dans la loi, on bénéficie d'un avantage, c'est que on a les mêmes attentes qui sont pour toutes les entreprises. Ça, c'est déjà un élément qui est extrêmement utile et qui peut être aussi utile pour les entreprises qui font déjà des efforts dans ce domaine. Parce qu'elles peuvent être pénalisées par celles d'un même secteur qui seraient les moutons noirs et qui entachent un peu ce qu'elles veulent bien faire dans leur propre secteur. Au niveau d'Amnesty, ce qui est aussi intéressant pour moi, c'est d'observer cette dynamique internationale qui se crée autour de cette initiative suisse. Dès qu'il y a un pays qui commence, on a avec cette loi de vigilance française, après il y a d'autres pays qui suivent, il y a l'Allemagne, la Norvège, la Suède, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Et la dernière chose, c'est aussi l'appui qu'on peut apporter, en fait, dans les pays en développement, aux personnes lésées, que ce soit par une recherche approfondie qu'on fera, ou les accompagner. Amnesty fait souvent les fameux amicus courriers, par exemple, aussi. Peut-être qu'on sera appelé à jouer un rôle encore plus proactif quand il y a des procédures civiles qui sont mises en œuvre, de trouver les bons avocats, de former des avocats, il faudra former des juges.
Et peut-être aussi, excusez-moi, mais peut-être aussi avec les sections d'Amnesty, pour autant qu'elles existent dans les pays dans lesquels un certain nombre de violations sont commises.
Absolument. Alors là, on a en plus développé au niveau d'Amnesty, on a non seulement les sections, mais on a aussi des bureaux régionaux de recherche. Donc là, les gens sont directement en contact avec les organisations locales. On a vu aussi avec tous les défenseurs des droits humains, sur le climat, sur les problématiques environnementaux, des populations indigènes, des gens qui se font réprimer par les gouvernements, souvent main dans la main justement pour défendre les intérêts des sociétés multinationales qui veulent exploiter les matières premières dans ces pays. Et là, je pense que c'est un rôle absolument primordial que nos collègues à l'échelle mondiale pourront jouer. Et comme on bénéficie, nous bénéficions déjà au niveau d'Amnesty de ce réseau, c'est beaucoup plus facile de se coordonner sur ce sujet. Pour information, ce n'est pas toujours évident de faire des recherches sur le secteur privé parce que vous devez être très sûr des éléments que vous amenez. Vous avez beaucoup plus de risques par rapport à des recherches sur les gouvernements, d'être poursuivi pour
diffamation,
exactement. Poursuivi en justice pour diffamation par ces sociétés multinationales qui ont quand même des bataillons d'avocats à nous mettre aux trousses si on n'est pas sûr de nos faits. Donc ces recherches sont fastidieuses. On a aussi constaté, mon collègue qui travaillait sur la Colombie m'a dit, des fois quand on fait des recherches, il y a aussi des menaces qui sont proférées contre nos témoins. Donc vous avez des témoins qui se rétractent. Ça a été le cas en Colombie où ils se sont rendus compte qu'effectivement il y avait des gens qui tout à coup ne le connaissaient plus. Et il a appris après coup qu'ils avaient été menacés à l'époque par des paramilitaires en Colombie. Alors ça, il faut justement avoir des bons partenariats parce qu'il faut savoir connaître les partenaires avec lesquels vous pouvez travailler, qui sont fiables, qui peuvent et qui sont pas peut-être des espions. Certains peuvent être carrément des espions faits sur le compte du gouvernement ou de grandes sociétés multinationales. Et ça, c'est l'avantage d'avoir une... Même nos autres collègues des organisations suisses qui travaillent dans la coopération au développement ont déjà des partenariats locaux. Et c'est grâce à ces partenariats de longue année qu'on peut construire en fait quelque chose, un rapport aussi de confiance avec ces partenaires. Et puis nous, on se fait un peu les porte-parole en fait de leurs doléances chez nous.
Mais une question un petit peu qui va dans le même sens, mais c'est par rapport aux résistances de plus en plus fortes hein, des gouvernements, que ce soit en Colombie, en Équateur, au Chili. Enfin, il y a des mouvements sociaux qui sont en train de se lever actuellement. Et la répression est beaucoup plus dure quand même. Depuis 2-3 ans, on a fait une transformation assez grande au niveau des sociétés qui sont mises en place en Amérique latine, par exemple. On trouve qu'il y a une régression par rapport à il y a une dizaine d'années. Et là, c'est clair, on sort un petit peu du sujet des multinationales, mais enfin des multinationales, non, de l'initiative. Mm-hmm. Mais on sent que, par exemple, en Colombie, il y a tout le problème des terres actuellement, l'expropriation des terres, etc. Et qu'on voit que c'est soit les multinationales qui veulent acheter des terres ou à travers des sociétés colombiennes, etc. Et il y a quand même beaucoup de militants colombiens qui se sont fait tuer depuis, assassinés depuis une année. De l'ordre de 300 personnes, quand même, c'est même plus.
Absolument.
Donc, ça, je pense, par rapport à l'Amnesty International, vous réagissez comme beaucoup.
Oui, bien sûr. Alors là, on est absolument mobilisé sur question-là, surtout la Colombie, justement, comme vous le dites. Accaparement des terres qui appartiennent à des populations locales. Et des gens, les expulsions forcées, et puis après tous ces militants, justement ces défenseurs des droits humains, défenseurs, défenseuses des droits humains, qui font l'objet de répressions massives des gouvernements. En Colombie, il y a eu pendant des années, c'était la problématique des syndicalistes qui se faisaient carrément exterminer. Hein, pendant le conflit colombien, c'était vraiment une véritable extermination. D'ailleurs, il y a eu, on a eu aussi à l'époque beaucoup. Plusieurs séances avec Nestlé par rapport à la problématique des syndicalistes en Colombie. Et ça, c'est une donne à laquelle on doit faire face. On doit s'y opposer et documenter les cas. Arriver à documenter. Alors, s'il y a une répression du gouvernement qui se fait en plus main dans la main avec soit des sociétés de sécurité privées d'une grosse société multinationale ou qui a des intérêts de multinationales qui sont derrière les décisions du gouvernement, c'est à nous, ONG, de pouvoir dénoncer et démontrer en fait, cette cohésion en fait, entre ces deux parties.
Daniel Gostelia-Auzer, merci beaucoup pour cette discussion ouverte.
J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec vous, merci beaucoup.
Merci à vous. À la conception, réalisation de cette thématique et à sa mise en onde, Patrick Rion, Jean-Luc Rochat, Fabio Cattaneo. Rédacteur responsable, Patrick Rion. Nous remercions l'équipe de Radio Django qui nous permet de poursuivre la diffusion de cette série d'émissions. À la semaine prochaine. Mildred, Mildred, Mildred.